Je poursuis sur le message que j'ai commencé la semaine dernière sur notre maison. Bien établir notre maison. Nous avons vu dans la Bible que souvent, quand on parle de la maison, c'est pour évoquer en fait notre être, notre vie. Et on a vu la semaine dernière trois clés pour bien établir notre maison. La première clé, bâtir sa maison sur un lieu saint, à savoir sur le roc, Jésus et la parole de Dieu. La deuxième clé, c'était bâtir sa maison aux bonnes dimensions. Je rappelais que notre être est constitué de trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, c'est l'enveloppe extérieure. L'âme, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, c'est le siège de nos pensées, le siège de nos sentiments, de nos émotions, et c'est aussi le siège des décisions. Nous avons vu que nous avons un esprit, cet espace que Dieu a créé en nous pour que nous puissions le retrouver, pour que nous puissions entrer en communion avec lui, que nous puissions connecter notre esprit à son esprit. Et si nous accueillons l'Esprit de Dieu, eh bien, on peut lui demander, et c'était la troisième clé, d'éclairer toutes les pièces de notre maison. Et il arrive parfois, même après la conversion, même après plusieurs années de vie chrétienne, il peut arriver qu'il y ait dans notre maison quelques coins, quelques recoins qui restent un petit peu dans l'obscurité. Nous avons vu aussi que nous avons tous une terre promise. Dieu appelle chacun à une mission particulière. C'est l'objectif de nos vies, entrer dans notre terre promise. Dieu a un appel pour chacun. Dieu t'appelle. 1 Corinthiens 7 au verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Pour rentrer dans cet appel, eh bien, Dieu nous a fait des dons. 1 Pierre 4, 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et Dieu nous a donné du temps pour que nous puissions accomplir la mission qu'il nous a confiée. Il y a un temps pour tout, dit l'Ecclésiaste, Ecclésiaste 3, versets 1 et 2, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher, etc. Je vous renvoie à la lecture d'Ecclésiaste. Dieu est le maître du temps et il nous prête un certain laps de temps pour que nous puissions accomplir notre mission. Vous savez, sur notre tombe, il y aura seulement trois choses. Notre identité, notre nom, notre date de naissance et notre date de mort. Et au milieu, entre la naissance et notre décès, un tout petit trait qui représente le temps que Dieu nous aura prêté sur cette terre. De quoi sera fait ton petit trait? À nous de bien gérer notre temps pour accomplir notre mission. Dieu nous donne sa paix aussi, quand on se tourne vers lui au moment de la conversion, il nous donne sa paix. Jean 14, verset 27, « Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne. » Il nous donne également la joie d'accomplir notre mission. Galates 5, 22, « Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité, etc. » Et tant de choses que Dieu nous donne par sa grâce, pour que nous puissions marcher vers notre terre promise. Et tant que nous ne sommes pas entrés dans notre terre promise, tant que nous ne sommes pas en mouvement vers notre mission, eh bien, notre vie n'est pas à l'équilibre. Notre vie ne peut pas être épanouie tant que nous n'avons pas trouvé la chose pour laquelle nous sommes faits. Nous avons vu aussi la semaine dernière qu'il y a parfois des cartons que l'on traîne dans nos vies, parfois des cartons du passé, des cartons que l'on traîne depuis l'enfance et qui sont comme ces choses qui nous freinent et qui nous empêchent d'entrer dans notre terre promise. Alors, Dieu nous appelle, Dieu nous fait des dons, Dieu nous fait des promesses, mais l'ennemi de nos âmes, il va tout faire pour nous empêcher d'avancer et de rentrer pleinement dans notre terre promise. Et donc, on traîne des choses dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. La première chose, c'est le rejet. Dans le rejet, il y a des tas de choses qui sont lourdes à porter. Qui n'a pas, une fois dans sa vie, ressenti le sentiment de rejet? On a tous, dans nos cartons de souvenirs, des expériences douloureuses de rejet. En fait, c'est la conséquence directe de la chute. Lorsqu'Adam était dans le jardin d'Éden, en fait, il jouissait vraiment d'une communion parfaite avec Dieu. Dieu lui avait donné autorité sur les choses, sur les animaux, sur la création. Il lui avait seulement donné un interdit. Ne mange pas de ce fruit défendu, parce que le jour où tu en mangeras, eh bien, tu mourras. Et comme l'homme aime bien flirter avec les interdits, eh bien, il a mangé de ce fruit. Alors Dieu s'est retiré de lui. Il a retiré sa présence. Il a chassé du jardin d'Éden. Et de ce rejet est né un profond besoin d'appartenance. Et nous avons hérité de cela. Appartenir à quelqu'un, appartenir à un groupe, se sentir accepté. Ça, c'est dans le cœur de chaque homme, n'est-ce pas? Il y a tellement de souffrances dans le monde liées au problème de rejet. Je pense à toutes ces personnes qui sont chassées de leur pays parce qu'ils n'ont pas la bonne couleur de peau, ou parce qu'ils n'ont pas la bonne religion, ou parce qu'ils ne sont pas nés dans la bonne ethnie. Il y a tellement de souffrances. Je pense aussi à tous ces migrants qui doivent traverser les mers sur des bateaux de fortune au risque de leur vie pour fuir, parce qu'ils sont rejetés ou parce qu'ils rêvent d'une vie meilleure. Ils sont juste en quête d'une terre qui voudra bien les accueillir. Mais je pense aussi à toutes les personnes qui nous entourent, nos collègues, nos membres de famille qui vivent des situations de rejet. Je pense à la mère célibataire qui a été rejetée par son mari. Je pense aux enfants qui vivent dans les écoles des situations de rejet parce qu'ils ont une différence. Les exemples sont si nombreux. Et dans sa quête de régler ce problème avec le rejet, l'homme, il peut avoir recours à plusieurs stratégies. La première stratégie, c'est essayer de régler le problème dans son corps. On a vu, nous sommes corps, âme et esprit. Ceux qui essayent de régler leurs problèmes dans leur corps peuvent peut-être avoir l'idée de changer d'apparence. Bon, tous ceux qui ont recours à la chirurgie esthétique pour modifier quelque chose qui ne leur plaît pas en eux. Y a toutes ces personnes qui se tatouent le corps pour essayer de ressembler à quelque chose qu'ils ne sont pas, ou peut-être trouver une identité dans ce marquage extérieur. Je parlais la semaine dernière des jeunes filles, des femmes, et parfois des hommes aussi, qui souffrent d'anorexie mentale. Parce qu'ils sont simplement influencés par la dictature de ce monde qui leur montre que le standard de beauté, eh bien, c'est la minceur à outrance. Et donc de ces filles qui sont prisonnières de leur corps et de l'apparence. Tant de souffrances. Il y a aussi ceux qui veulent combler ce manque par les conquêtes amoureuses. Donc ils vont de conquête en conquête. Vous savez, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Quand elle a rencontré Jésus au bord du puits, Jésus lui dit, tu as cinq maris. Elle avait eu cinq maris, cette femme. Je pense qu'elle devait souffrir d'un profond sentiment de rejet pour chercher dans les hommes ce qu'elle n'avait pas trouvé dans la vie. Elle multipliait les conquêtes. Il n'y a aucune solution à trouver dans le corps. Alors, il y a ceux qui vont essayer de régler le problème du rejet dans leur âme. Donc, ils vont aller de psychologue en psychologue, ils vont de thérapie en thérapie. Et en fait, ça leur fait du bien sur le moment. Mais c'est en quelque sorte comme si on appliquait un sparadrap sur une plaie béante et qui saigne, qui est ouverte, qui a simplement besoin d'avoir des points de suture. Il n'y a aucune solution à trouver dans notre âme. Parce que la seule solution, elle est à trouver dans notre lieu saint, dans cet espace que Dieu a créé en nous, notre esprit. Et quand on reconnecte notre esprit à l'esprit de Dieu, eh bien, on est accepté de Dieu. Je retrouve mon identité d'enfant de Dieu. Alors, je n'ai plus de rejet, plus de sentiment de rejet, je suis accepté par mon Créateur. Ça règle beaucoup de choses. Je reçois un esprit d'adoption qui me fait crier « Abba Père ! Merci Père de m'accepter tel que je suis. » Ça règle beaucoup de choses. Plus de problèmes de rejet. Je suis réconcilié avec mon Créateur et je peux être réconcilié avec moi-même, réconcilié avec mes frères et sœurs. Et je peux entrer dans des relations saines, dans des relations équilibrées avec les autres. Je connais mon identité d'enfant de Dieu. Quand Dieu coupe ce problème de rejet, je peux avancer librement. Je peux avancer vers ma destinée, avancer vers la terre promise. On se sent tellement plus léger quand on n'a plus ce boulet qu'on traînait derrière soi. On se sent tellement plus léger qu'on peut s'adonner à quelques distractions. Alors, j'ai mis distraction, parce que je trouvais qu'une traction, c'est bien. Deux tractions, c'est bien aussi. Trois tractions, ça commence à faire, mais distraction, c'est beaucoup. Alors, j'ai fait un peu de ménage dans ma cave et j'ai retrouvé des choses que je n'utilisais plus. Donc, cadeau ce matin, qui souhaiterait des balles? Oh, je vais essayer. Attends, quelques jaloux. Une ici. Ah, c'est pour le petit. Ah, bravo, on peut l'applaudir. Alors, comme c'est un peu d'actualité, c'est l'été, un jeu de plage. Non, t'as déjà eu, Joe. Un enfant peut-être? Ah, ici, la fille du milieu. Oh! Allez, un dernier cadeau. Non, n'y voyez aucune référence à un quelconque événement actuel. Ah ben ça a beaucoup de succès. Hein. Allez, à qui voudra le prendre? Ah ben écoutez, moi j'ai retrouvé mon portable que je cherchais depuis ce matin. Celui-ci, je vais le garder. J'ai plein de messages. Bon, j'y répondrai tout à l'heure. Où en étais-je? Ah, on m'a pris mes fiches. Je ne retrouve plus mes fiches. J'avais la joie. Quelqu'un a pris mes fiches? Il me manque la joie, la paix. On m'a volé mon temps. Satan, c'est le voleur. Il a fallu un moment de distraction pour que l'ennemi me vole ce que Dieu m'avait donné. Alors, il a volé ma joie. Il a volé ma paix et il a volé mon temps. Seulement, il ne m'a pas volé mon appel. Il ne m'a pas volé non plus les dons que Dieu m'avait donnés. Parce qu'en fait, comme dit la parole, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Ça, c'est dans Romains 11, au verset 29. Quand Dieu a donné, Dieu laisse. Alors, l'ennemi peut me voler ma joie, ma paix, mon temps, mais il ne me volera pas mon appel et les dons que Dieu m'a donnés. L'activité favorite de l'ennemi, c'est de nous distraire. Alors, des distractions qui ne sont pas mauvaises en soi, hein, mais qui sont chronophages, qui vont me prendre tout mon temps et qui vont m'empêcher d'avancer vers ma terre promise, d'accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Et l'ennemi fait cette œuvre dans l'Église. Je m'explique. Supposons que vous soyez appelé à bénir les enfants à l'école du dimanche. C'est votre appel, c'est ce que Dieu a déposé dans votre cœur. Il vous a donné le don pour cela, la sensibilité, l'amour pour les enfants. Le problème, c'est que l'ennemi va peut-être vous glisser d'autres pensées. Tiens, ce serait pas mal la louange. C'est bien en vue, je serais peut-être valorisé, voyez. Alors vous, si vous n'êtes pas à l'écoute de Dieu, vous allez servir à la louange des années, en passant à côté de votre appel. L'ennemi fait cela dans l'Église. La louange, c'est pas mauvais en soi. Mais si vous n'êtes pas à la place où Dieu vous veut, c'est une distraction. Alors j'ai une petite citation pour vous. Est-ce que vous connaissez le Sadhu Sunder Singh? Alors, c'est un Indien qui a vécu au début du XXe siècle. C'était un Sikh, la religion qui est entre l'hindouisme et l'islam. Et donc il a été éduqué dans cette religion-là. Mais il grandissait avec un vide à l'intérieur de lui-même. Et à l'adolescence, il avait 15 ans, ce vide, cette souffrance était tellement grande qu'il avait décidé de mettre fin à ses jours. Parce que vous savez, dans le système des castes en Inde, eh bien, on peut se réincarner. Alors, il s'est dit, ma vie n'a plus aucun sens dans cette vie-là, alors je vais me supprimer pour vivre une vie meilleure dans l'autre vie. Seulement, quand il a pris cette décision, il a adressé une dernière prière à sa divinité, peut-être Bouddha. Il s'attendait, du coup, à voir Bouddha, et c'est Jésus qui lui est apparu. Donc, cette rencontre a changé sa vie. Il s'est tourné vers l'Évangile. Alors, naturellement, il a été exclu de sa famille, il a été persécuté. Il était dans une bonne situation, donc ses parents ont tout fait pour essayer de le ramener par des cadeaux, par des promesses. Et un jour, son oncle l'invite à passer le week-end chez lui et il lui ouvre un grand coffre rempli de trésors, rempli de bijoux précieux. Il lui dit, voici ce que je t'offre et bien plus si tu reviens à la foi de tes ancêtres. Alors lui, naturellement, il a persévéré avec Dieu et avec Jésus. Et alors, ses parents ont décidé de le chasser de la maison. Ils lui ont acheté un billet aller dans la plus grande ville, la ville la plus proche, en disant, tu peux partir, on ne veut plus te revoir. Alors, il est parti un matin, la peine à l'âme, c'est vrai, mais décidé de suivre Jésus. Dans le train, il est pris par d'affreuses souffrances. Et il se rend compte qu'en fait, ses parents l'avaient empoisonné pour le petit déjeuner, pour qu'il parte dans le train et qu'il meure dans le train. Bon, il a survécu et il a rejoint une mission chrétienne dans cette ville où il allait. Et il a passé le restant de sa vie, en fait, à prêcher l'Évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Et il est venu en Occident et voilà ce qu'il a pensé de l'Occident. Dire que le christianisme est un échec en Europe et en Amérique est une grave erreur et n'est pas basé sur l'expérience. Pourtant, dans mes voyages en Occident, j'ai trouvé les gens si occupés par leur travail, leurs affaires, leurs bureaux, leurs commerces, qu'ils n'ont plus le temps de prier et recevoir les bénédictions de l'Évangile. Quelques-uns m'ont confessé que leur vie était devenue si compliquée et si remplie qu'ils en sont fatigués. Si un homme s'affaiblit parce qu'il n'a pas pris de nourriture ou d'eau, pouvons-nous dire que la faute est imputable aux aliments ? Certes pas. La négligence de cet homme seul est la cause de sa faiblesse. Des propos qui datent de 1929. Des propos qui n'ont pris aucune ride. Nous sommes occupés. Pourtant, on connaît la source. Mais on va s'abreuver dans des choses qui sont autres que Jésus. Des distractions. Alors moi, je veux prendre position et je veux couper avec les distractions qui m'empêchent d'avancer plus loin dans ma terre promise. Alors je coupe tout à l'heure. Jésus a coupé les liens du rejet. Et cette fois-ci, on doit prendre position. Vous savez, Dieu fait sa part et on a notre part à faire. Donc c'est à nous de prendre position sur les choses qui nous distraient et qui nous empêchent d'avancer plus loin dans notre terre promise. Je me sens beaucoup plus léger sans les distractions inutiles. J'ai beaucoup plus de temps pour prier, pour rechercher la face de Dieu, pour rentrer dans mon appel. Par contre, je suis vite rattrapé par les marquages. On est tous marqués par quelque chose. On est tous marqués positivement ou négativement, en fait. Marquages, ce sont des tatouages invisibles qui sont sur nos âmes. Des pensées, des mensonges du diable, des paroles qu'on a reçues et qui influencent, eh bien, qui influencent notre marche, qui influencent nos choix, qui influencent nos actions, nos réactions. On est très marqué dans nos cultures, dans nos pays. J'ai eu l'occasion de voyager un petit peu et je me suis rendu compte qu'en fait, les nations marquaient leur population, leur peuple. Dernièrement, je me suis rendu à Madagascar et alors j'ai été agréablement surpris par l'honneur que les Malgaches marquaient pour les anciens, le respect qu'ils ont pour les personnes âgées. Par contre, j'ai été choqué par un rite dans leur culture qui s'appelle le retournement des morts. Une fois tous les ans, il y a une grande fête qui est organisée et les gens se rendent dans les cimetières pour déterrer leurs ancêtres et ils récupèrent donc les dépouilles, les os, les ossements et ils dansent avec, ils font la fête avec les os de leurs ancêtres. Et ce qu'il y a de plus terrible, parce qu'ils pensent que c'est comme ça qu'on honore la lignée et qu'on sera béni. Ce qui est terrible, c'est que les chrétiens n'ont pas coupé avec ce rite. Des chrétiens, dans les églises, pratiquent aussi le retournement des morts. C'est terrible. Alors qu'en France aussi, on a nos marquages. Quand des étrangers viennent sur notre sol, ils sont parfois choqués par, notre rébellion, le manque de respect qu'on a par rapport aux autorités. Le plus gros marquage, c'est dans la famille. Par l'éducation qu'on a reçue, par les rangs qu'on a dans la fratrie. Je suis le dernier, je suis le petit dernier. Vous voyez tout ce que ça peut impliquer dans la pensée d'un enfant, être le dernier. On est marqué dans nos familles par le niveau social. Le plus gros marquage, le plus gros marquage qu'on a sur nos vies, c'est pendant l'enfance. Il y a une étude sérieuse qui a montré qu'un enfant recevait une parole positive contre 10 paroles négatives, en moyenne. L'école n'est pas en reste. À l'école, on est sur une moyenne de une parole positive pour 7 paroles négatives. Alors, est-ce que vous imaginez ce que ça peut créer dans le cœur d'un être qui est en construction? Alors les parents, je m'adresse à vous, mais je m'adresse aussi aux personnes qui travaillent avec les enfants. Une parole de la Bible dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la bouche ». Alors, qu'est-ce qu'on confesse de nos bouches par rapport aux enfants? Qu'est-ce qu'on leur dit? Moi, j'ai entendu des tas de choses. Des parents qui parlaient comme ça à leurs enfants, quelques citations. « J'en peux plus de toi. Tu ne changeras donc jamais. Tu es mauvais. Tu es un bon à rien. » Tout ça, ce sont des paroles de malédiction qu'on prononce sur la vie d'une personne. Alors peut-être que les enfants, parfois, peuvent être un peu turbulents, un peu difficiles à vivre, mais confesse de ta bouche le positif. Proclame de ta bouche ce qui n'est pas encore l'existence, mais appelle à l'existence la bénédiction sur les enfants. Appelle, appelle. Moi, je travaille avec des enfants en difficulté, parfois un peu turbulents. C'est vrai que je pourrais passer mon temps à dire « Mais tu fais ci, tu fais ça, t'es pas comme si t'es méchante ici. » J'appelle à l'existence, je sais que tu es capable, je sais que tu es capable de bien agir. Je crois en toi, je sais qu'il y a une possibilité, tu as un potentiel. Confessons de notre bouche la bénédiction sur les enfants. Moi, j'ai grandi toute mon enfance, en fait, avec des paroles qui m'ont fait penser que j'étais nul. Vous savez, on a tous des marquages, c'était mon marquage. Je suis nul. Les autres sont mieux, moi je suis nul. Si je ne pars pas en vacances, c'est parce que mes parents sont pauvres et qu'on est nuls, on est des nuls, quoi. Les autres sont mieux. Si mes vêtements sont trop courts et dépareillés, c'est que je suis nul. C'est que mes parents, ils n'ont pas les moyens, quoi. Et j'ai grandi à l'école avec ces marquages, ces mensonges sur moi-même. Et ça marque la vie parce que même quand on entre dans la vie adulte, à chaque fois qu'on entreprend quelque chose, on a ses pensées. Oui, mais t'es un bon à rien, t'y arriveras pas, t'es nul. Je vous partage ça ce matin parce que là, je me tiens devant vous. Mais vous imaginez pas le travail que ça m'a demandé. Parce que j'avais l'impression de rien avoir à dire. J'étais un bon à rien. Et souvent, quand on m'appelait pour soit apporter un message ou soit faire un concert dans une église, mais j'étais retenu parce que je me dis, mais non, pas moi, j'ai rien à dire, je suis un nul. Ça a été un combat, vous voyez, pour me tenir enfin devant vous et de non plus accepter ces marquages que l'ennemi a voulu placer sur ma vie, mais simplement accepter ce que Dieu pense de moi. C'est la seule chose qui compte, ce que Dieu pense de moi. Et je sais que Dieu m'a restauré dans mon identité d'enfant de Dieu. Et je peux avancer, libéré de ces marquages du passé dont je veux couper pour avancer pleinement dans ma terre promise. qu'est-ce que l'ennemi a mis comme mensonge dans ton esprit, dans ta tête, qui t'empêche de rentrer dans ta terre promise? Qu'est-ce que l'ennemi a mis dans ton esprit comme mensonge et qui t'empêche d'avancer pleinement? Je vous lis un passage. Alors ça va vous plaire. J'ai lu ça cette semaine. Un témoignage de Claire. Alors, une nouvelle identité pour une nouvelle vie. Un livre que je recommande, Neil Anderson. Et il est professeur dans une faculté. Il était professeur dans une faculté aux États-Unis. Et il travaillait auprès d'étudiants. Ce sera court, hein, vous inquiétez pas. Se voir tel qu'on est réellement. Claire participait à une étude biblique pour étudiants universitaires que je dirigeais il y a plusieurs années. Du point de vue physique et matériel, Claire n'avait absolument aucun avantage. Elle était mal proportionnée et son visage était couvert d'acné. Son père, alcoolique, avait abandonné sa famille alors que sa mère essayait péniblement de survivre avec des emplois minables. Son frère aîné, un drogué, était souvent de passage à la maison. Imaginez, il y en a qui partent mal dans la vie. Quand j'ai rencontré Claire, pour la première fois, j'étais sûr qu'elle ferait toujours tapisserie dans un groupe. Vous savez, le genre de personnes qui sont comme des plantes vertes, mais qui sont juste là, quoi, physiquement, mais qui ne participent pas, qui, peut-être parce qu'ils pensent qu'ils n'ont rien d'intéressant à dire. J'étais sûr qu'elle ferait toujours tapisserie dans un groupe. Je ne pensais pas qu'elle pourrait être acceptée par des étudiants attirés surtout par la beauté physique et la réussite matérielle. Mais à ma surprise, j'ai découvert que tout le groupe l'aimait et appréciait sa présence. Elle avait beaucoup d'amis. Et en fin de compte, elle épousa le meilleur jeune homme du groupe. Quel était son secret? Claire croyait simplement ce qu'elle se savait être, un enfant de Dieu. Elle s'acceptait en fonction de ce que Dieu disait d'elle en Christ. Dès lors, elle s'était consacrée avec confiance à accomplir le grand but que Dieu avait fixé sur sa vie, se conformer à l'image de Christ et aimer les autres. Elle n'était une menace pour personne. Au contraire, elle était si positive et attentionnée envers les autres que tout le monde l'aimait. Voilà une personne qui avait compris sa réelle identité d'enfant de Dieu. On s'achemine vers notre terre promise, on s'achemine de la fin. On a ce carton d'amertume qu'on peut encore traîner malgré les années. C'est un carton qui est plus petit que les autres, mais il est sacrément lourd. C'est l'amertume causée par le manque de pardon. Le manque de pardon qui crée l'amertume, l'offense dans nos vies, une arme redoutable entre les mains de l'ennemi. Est-ce que quelqu'un voit de quoi je veux parler? L'amertume créée par le manque de pardon. Alors je vais vous raconter l'histoire d'un père qui avait deux fils. Les deux fils chamaillaient comme tous les enfants. Jusqu'au jour, à la fin de l'adolescence, ils se sont chamaillés un peu plus dur que d'habitude. Ils en sont passés aux mains. Ces deux jeunes adultes se sont battus au point de se fâcher et de ne plus se parler. Chacun a fait sa vie de son côté. Et le père était au milieu d'eux. Il appelait ses enfants. Réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Alors il allait voir l'un, il essayait de le raisonner, il allait voir l'autre, il essayait de le raisonner. Réconciliez-vous. Le cœur du Père était brisé. Cette histoire, c'est l'histoire de Dieu. Quand dans sa maison, deux de ses enfants sont fâchés et refusent de se pardonner. C'est le cœur du Père qui est déchiré. Il n'y a pas d'unité dans l'Église. J'étais avant dans une église, il y a quelques années, il y avait deux sœurs de sang, hein. Elles étaient sœurs réellement, biologiques on va dire. Mais elles n'étaient pas sœurs en Christ, elles étaient fâchées. Elles servaient dans l'église depuis des années, elles étaient fâchées, elles ne se parlaient plus. Elles amenaient leur sacrifice à Dieu, elles étaient fâchées, elles ne se parlaient plus. Il y avait aussi une autre situation d'église, c'était les responsables qui ne se parlaient plus. Ils étaient fâchés. Alors peut-être qu'ils écoutaient dimanche après dimanche le message de l'Évangile, le cœur de l'Évangile, le message de pardon et de réconciliation. Et peut-être qu'ils prêchaient ce message, mais ils ne vivaient pas l'Évangile. Il n'y a pas d'unité. Alors on réclame la puissance, on réclame les miracles, on réclame les bénédictions, mais il y a des discordes dans la maison de Dieu. Comment voulez-vous que Dieu agisse? On va faire quelque chose de pratique ce matin. Je vais vous lire deux passages. Levez-vous, on va fermer les yeux et on va vraiment se laisser interpeller par ces deux passages que je vais lire. Et lorsque vous êtes debout, ça c'est un passage dans Marc, l'évangile de Marc, 11 au verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Je vais le relire. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Garde les yeux, on garde les yeux fermés. Je poursuis avec un deuxième passage dans l'évangile de Matthieu 5, au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Les offrandes, c'est tout ce qu'on peut apporter à Dieu, notre sacrifice de louange, nos prières de reconnaissance, notre dîme, notre service, notre ministère, enfin, tout ce qu'on a apporté à Dieu. Dieu nous dit, si tu as quelque chose contre ton frère, laisse ça. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Alors, si à la lecture de ces deux passages, si tu as pensé à quelqu'un en particulier, c'est certainement que Dieu t'interpelle ce matin pour que tu entreprennes une démarche de réconciliation. Mais je ne peux pas, je suis tellement blessé. Oui, tu ne peux pas. Parce que le pardon, c'est pas, on ne peut pas pardonner humainement. Le pardon, c'est divin. Dieu donne la force de pardonner. Mais je ne peux pas, tu ne sais pas tout ce que cette personne a bousillé dans ma vie. Ben Jésus, il sait. Et il te donne la force ce matin de pardonner à cette personne. Le pardon, ce n'est pas un sentiment, le pardon, ce n'est pas une émotion. Le pardon, c'est un choix. Choisis de pardonner ce matin. Choisis de pardonner parce que l'amertume, ça t'empêche d'accomplir ta mission et de t'approcher de ta terre promise. Alors ce matin, moi, je veux couper tous ces liens d'amertume qui nous retiennent dans notre marche et j'avance. Et là, derrière moi, il me reste, vous pouvez vous rasseoir si vous voulez, il me reste qu'un seul carton. Vous voyez? C'est un carton tout blanc. Parce qu'en fait, j'ai évoqué certaines choses, j'ai parlé de certaines choses, mais j'ai peut-être pas parlé de ton problème ou de ta chaîne, de ton fardeau qui te retient d'avancer dans ta marche. Alors, dans l'esprit, par la foi, écris ce problème que tu as sur ton carton. Écris-le. C'est différent pour chacun. Écris ce fardeau qui te retient et qui t'empêche d'avancer. Et par la foi, fais cet acte prophétique ce matin de couper tout lien, de couper ce lien et d'entrer enfin dans ta terre promise. La terre promise, il n'y a rien de plus jouissif que d'être là où le Seigneur nous veut. Notre terre promise, notre mission à accomplir. Accomplir la mission que Dieu t'a donnée. C'est ce qu'il y a de plus précieux dans la vie. Et dans notre marche, vous savez, il y a des combats, il y aura des difficultés. Mais Dieu a prévu pour nous un encouragement. Il y a une lettre ce matin que je souhaiterais vous lire. Mon enfant, si tu savais combien je t'aime. Je t'aime tel que tu es. Tu es unique. Ce sont mes mains qui t'ont façonné. J'ai utilisé une terre sainte pour te créer. Mais cette terre a été salie, parfois par les autres, parfois par tes propres choix. Dans tous les cas, elle a été salie par notre ennemi. Tout ce qui t'est arrivé, tous ceux que tu as rencontrés ont influencé ce que tu es. Parfois en bien, parfois en mal. Tout ce que tu as surmonté fait de toi une pierre si précieuse. Une pierre unique et inestimable. Si tu marches en tenant ma main, tu ne craindras rien. Je t'ai donné toutes les provisions nécessaires pour entrer dans ton appel, les capacités, les dons et mon esprit à tes côtés. Et si tu ne comprends pas encore précisément ce à quoi je t'appelle, je te donne un secret. Tu trouveras ce pourquoi tu es fait dans ce qu'il y a de plus singulier en toi. C'est juste au fond de ton cœur, à l'endroit même où la compassion déborde. Tu le trouveras plus facilement encore en tournant tes regards vers les autres. Mais surtout, n'oublie pas, dans ta marche et ta mission, tu n'as rien à prouver, ni à moi, ni aux autres. Je t'ai déjà approuvé. Je suis parfois triste quand je te vois faire des choses qui ne te ressemblent pas. Des choses qui impressionnent peut-être les autres, mais qui, à mes yeux, n'ont aucun poids. Il n'y a rien que tu puisses faire qui n'augmente ou qui n'enlève l'amour que j'ai pour toi. Toutes les tentatives pour me plaire sont inutiles. La seule chose qui me plaise, c'est ton cœur. Ton cœur repentant, simple et sans partage pour moi. C'est ton cœur quand il ne s'endurcit pas par la vie. Ton cœur quand il pardonne l'ami qui t'a blessé, l'ennemi qui t'a trompé. C'est ton cœur qui me plaît. PS, si parfois tu perds de vue le chemin, rappelle-toi que j'ai envoyé Jésus sur ta route pour te guider. C'est lui le bon berger, il te mènera jusqu'à moi pour l'éternité. Ton Père céleste qui t'aime tendrement. J'ai laissé quelques lettres sur le comptoir de l'église avec, pour chaque affirmation, une référence biblique. Il y en a quelques-unes à la sortie, si vous voulez relire pour méditer tout ça. Et moi, je vais prier. Merci, Seigneur, pour ce cadeau que tu nous fais, pour cet appel, pour ces dons que tu nous as donnés, pour cette vie éternelle. Merci pour la mission que tu as confiée à chacun. Et nous avons repéré ce matin les choses qui peuvent nous empêcher d'accomplir notre mission. Les projets que l'ennemi a construits dans le passé pour nous empêcher d'accomplir notre mission. L'ennemi est démasqué ce matin. Merci Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Nous voulons courir dans l'appel que tu nous donnes. Nous voulons marcher dans cette terre promise que tu as pour chacun, libéré de tout fardeau. Nous prenons ton fardeau parce que nous savons que ton joug est léger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos et prenez mon joug, car il est doux et léger. Seigneur, ce matin, nous acceptons ton joug. Nous acceptons de marcher à ta suite. Je te prie, Seigneur, pour chaque être ce matin qui a pu entendre ce message, que ce message puisse travailler les cœurs en profondeur et que dans les prochains jours, dans la semaine qui vient, tu puisses parler précisément concernant la mission, concernant l'appel. On a tous un appel spécifique. Il est juste temps, Seigneur, d'y entrer pleinement. Alors, Père, je te remets les cœurs de chacun, toi tu connais, et tu sais comment parler à chacun. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que ton nom soit élevé dans nos vies. Amen.
Amen. Amen.